après le Shabbat, on fait passer du carré. Est-ce que c'est valable uniquement en Israël ou alors en Israël aussi?
C'est bien sûr valable partout. Il y a des mitzvot, pour lesquels il est marqué Bechol Moshvotechem. Par exemple, L'Otebaruesh, Bechol Moshvotechem, vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures. Là, on apprend que c'est partout. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot à gouf, ça concerne la personne et qui concerne la terre, par exemple. La terre, c'est la terre d'Israël, d'accord, la Shemitah, Orla, Yovel, des choses comme ça. Il y a des mitzvot qui concernent le corps, Donc quelqu'un qui soit Mechal Shabbat, j'ai entendu qu'il y a une différence entre Shabbat et Chutzlaretz au niveau de la sanction karet. Mais, il y a karet et karet. Il y a une gravité plus grande pour certaines choses, bien que c'est la même sanction au niveau de la sanction. La Gemara, elle dit que la raison, Rachid amène cela sur le Chumash, quand on parle, Vayu le Tefot Ben Anechem, sur ce verset-là dans la Torah, Vayu le Tefot Ben Anechem, vous mettrez ces paroles en signe à votre bras et en totafot entre vos yeux, fais-toi, Tzivilar Tzionim, fais-toi des signes quand tu partiras en Galout, que continue à faire la mitzvot à l'étranger. Comme ça, quand tu reviendras en terre d'Israël, tu n'auras pas oublié comment on fait. Donc la raison pour laquelle on fait la mitzvot à l'étranger, c'est pour pas oublier comment faire quand on reviendra en terre d'Israël. Donc on fait Shabbat, on fait la soukha, on fait la tefillin, on fait tout. Alors ça veut dire quoi? Que ça n'a aucun poids? Non, c'est un poids énorme. Vu qu'on me dit, la Torah me dit maintenant, à Tzivilar Tzionim, mets-toi des signes pour ne pas oublier comment faire. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on fera les lois à l'étranger, et ça aura une importance à la mesure où, après, quand on viendra en terre d'Israël, on n'aura pas oublié comment faire. Et c'est très important. Sans le fait qu'Am Israël continue à faire des mitzvot à l'étranger, le peuple d'Israël aurait disparu. Et le peuple d'Israël ne peut pas disparaître, donc il y aurait des souffrances énormes, des choses terribles pour qu'on se réveille et qu'on fasse quand même. D'accord? Donc, il est clair qu'il est interdit de faire Chilou Shabbat à l'étranger. Il est clair, néanmoins, qu'il est plus grave de faire Chilou Shabbat ici dans le palais du roi en Israël que à l'étranger. Maintenant, ça a un poids. Pourquoi c'est le palais du roi ici? Ici, on est dans le palais du roi.
Et alors, l'Israël,
oui, bah, quelqu'un qui fait ses excréments, d'accord, dans la rue, c'est permis ou interdit? Interdit. Maintenant, il fait dans le palais du roi, permis ou interdit? Dans les deux cas, il a fait ses excréments, d'accord? Mais ça dépend où. Tu comprends que dans le palais du roi, c'est plus grave que dans la rue. C'est exactement ça. Carette, c'est carette. Oui, mais il y a un carette qui est plus grave et moins grave. Tu comprends que quelqu'un maintenant, tu peux comprendre quoi. Il y a deux religieux qui savent c'est quoi Shabbat, qui transgressent Shabbat. Un, c'est le Gdol Hador, et l'autre, c'est un jeune homme de 17 ans qui vient de famille religieuse, qui s'interdit, c'est que c'est carette. C'est vrai que c'est un impact différent. Les deux, c'est carette, mais c'est un impact différent, c'est clair. Parce que chacun, il a une certaine neshama, d'accord? La neshama, c'est maintenant, plus il grandit d'ailleurs, plus la neshama le grandit aussi. Maintenant, quand il touche, il fait un karet, d'accord, il fait une destruction au niveau de sa neshama, et démontre, parce que sa neshama, c'est un tuyau de lumière qui a beaucoup de lumière dans le monde. Quand le tuyau il est grand, ben, il a bouché un gros tuyau. Quand il a un petit tuyau, il a bouché un petit tuyau. Karet signifie couper. Alors tu coupes pour quoi? Ah, je coupais un petit tuyau ou un grand tuyau? Ben, c'est certain qu'il y a une très grande différence entre les deux. Qu'est-ce que tu voulais dire par ta question? Est-ce que quoi? C'est pas bien que je rentre en France?
C'est moins grave.
C'est pas bien du tout.
J'ai entendu des choses, pour une personne importante. Je me dis, sache que dans la musique était mitzvot parachot, pour une valeur 0 et triple 0, en l'Ouskarat.
C'est un peu exagéré.
En Israël. Alors ça m'a, honnêtement, ça m'a bouleversé.
D'accord, c'est un peu exagéré.
Alors, je me suis dit, quand j'ai rentré en France, je te burais, puis quand je reviens
au
Israël,
C'est un peu exagéré. Mais. C'est toujours comme ça. C'est un peu exagéré.
Il y avait un plan de rabbinement en Koussaret. C'est...
Des rabbins? Des rabbins?
Il y a un plan de rabbinement en Koussaret, c'est.
Ouais? Qui?
C'est un rabbinisme, pas des de l'Ador.
Alors.
Il a vécu en France.
Ouais. Chaim, il a vécu aussi en Pologne. Et le gars de Vilna aussi. Mais ça lui était. Baba Salé, il a pris ses clics et ses claques. Il est venu ici. Chavis Raïm, il a dit aux gens, voilà, partez.
C'est pas pour autant que ce qu'il faisait là-bas, c'était zéro.
C'est pas zéro. Mais je l'expliquais maintenant. La raison pour laquelle on fait la mitzvot à l'étranger, c'est pour pas oublier quand on vient de rentrer d'Israël. Ça, c'est Chazal qui l'ont dit, c'est marqué, c'est une marak, Ktubot, Bach 110b. D'accord? C'est clair.
C'est
la racha. Quoi, la racha? Bien sûr, la racha. C'est une réalité, c'est une gemara. Alors. Pas zéro. J'ai dit, c'est exagéré. Je m'attends, c'est exagéré. Zéro ou triple zéro, d'accord. C'est pour te rappeler. Pour te rappeler. Maintenant, pour te rappeler, c'est zéro, c'est pas zéro. Le fait, j'ai commencé mon cours en disant, la raison pour laquelle on fait la mission d'étranger, c'est pour pas oublier quand on reviendra en terre d'Israël à la fin des temps. C'est une petite raison ou une grande raison? C'est une petite raison? C'est une petite raison ou une grande raison? C'est une très grande raison.
Si on doit mettre une note sur 10, ça correspond à combien?
C'est très dur pour moi de dire. 1 sur 10. Allez. Idem, bien sûr. J'ai dit. C'est moins grave. C'est moins grave, bien sûr, c'est moins grave. Mais c'est clair que c'est moins grave. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est beaucoup moins grave. Bien sûr, c'est beau. Alors quoi, c'est permis? C'est pas permis. Pas permis. C'est interdit. Carrette, il y a carrette. Mais c'est plus petit. Regarde, quelqu'un qui n'est jamais venu en terre d'Israël, il n'a pas ni nourouar ni neshama, il a que nefesh. C'est un minus. Après, il vient en Israël première fois, boum, il reçoit un choc, tac, tac, le côté ismachial et quoi? Rouar, il a reçu le rouar. Boum, c'est bien. Il vient habiter en terre d'Israël, il reçoit un neshama. Il a un potentiel énorme. Quand il vient habiter en terre d'Israël, il reçoit un potentiel énorme. Alors maintenant, quand il fait une avera, il fait beaucoup de dégâts. Il fait un mitzvah, il fait beaucoup de lumière. T'as petit, t'as grand. Tu comprends? T'as un grand tuyau, un petit tuyau. En Israël, il y a des grands tuyaux. Tu es dans le palais du roi, t'as Dieu sur la tête, schlack. C'est marqué que les yeux de Dieu, ils sont sur la terre d'Israël du début à la fin, partout. Là, ils voient tout ce qui se passe. En France, regarde, mais de loin. Alors le type, il fait excréments dans la rue. Ok, c'est pas bien, il reçoit une tarte. Mais en face du roi, c'est pas une tarte qui va se recevoir. C'est un hypercute atomique. Tu sais que les rabbins venaient en terre d'Israël ici au début, ils crachaient pas par terre, ils disaient on n'ose pas cracher par terre.
Alors quoi, c'est-à-dire quand j'entends le vieux pouvoir qu'on me dit, Shabbat il est rentré ici à 19h, admettons, à Paris, il rentre à 21h30.
Ouais.
Ça veut dire, nous on est déjà dans Shabbat.
Ouais.
Peut-être encore
faire des. Et quand Shabbat sort? Non, il y a une choix du Ben Yishraï qui pose la question. Il y a une choix du Ben Yishraï. Il dit, comment ça se fait que Shabbat, il varie? Il dit, ça varie, c'est pas tellement une question. Dieu lui a ordonné que où que tu sois, tu fais le Shabbat. Mais il dit, d'après la Kabbalah, où le Shabbat, c'est une réalité dans le monde. Il y a une réalité maintenant mystique de Shabbat. Il y a un certain moment dans le monde, c'est Shabbat. Il dit, alors comment ça se fait? Parce qu'il y a des moments en Australie, c'est déjà plus Shabbat, alors que seulement le Shabbat rentre à New York. Hein. À New York, quand ça rentre Shabbat, il est en train de sortir en Australie. Alors, et où est la réalité? Alors, il répond avec un truc qui est un peu profond. Non, base de rien. C'est la question. Il y a une réalité mystique qui est un certain temps.
La base, elle est où elle?
Alors, oui, mais alors quoi? Elle est en Israël. Alors, type d'Australie maintenant. Ok, admettons que c'est Israël. Alors quoi? Alors, type d'Australie maintenant, quoi? Il peut être Mechalel Shabbat tant que ce n'est pas rentré Shabbat à Jérusalem? Alors quoi? Mais quelqu'un qui fait ses prières maintenant, c'est quand tu fais les prières, tu fais une action. Une action dans les mondes supérieurs. Le type en Australie, il fait déjà maintenant son action de mincha d'après-midi. Alors que moi, je suis en train de faire maintenant l'action du vendredi soir, d'accord? Et le type de New York, il est encore en plein vendredi après-midi, alors que l'autre est déjà un samedi soir. Comment ça se fait dans le ciel? Alors, il explique un truc assez profond, que c'est comme un arbre à l'envers, une arborescence. T'as la réalité du Shabbat là-bas, et quand les Juifs agissent, ça va agir là-dedans. Mais il dit, il y a un passage, j'ai expliqué ça dans des termes qu'il ne dit pas, il y a un passage entre l'intemporel et le temporel, parce que dans la réalité de Dieu, il n'y a pas de temps. C'est quelque chose qui est hors du temps. Shabbat, d'accord, c'est une réalité. Et nous, on passe dans le temps, on passe un moment hors du temps et on rentre là-dedans. Bah, ok, c'est un truc Kabbalah. C'est presque incompréhensible.
Une réalité temporelle pour Dieu.
Oui, à un certain niveau. Il y a un certain niveau où il n'y a plus de temps pour Dieu. Ben non. Il y a une descente de. À son niveau, à lui, il y a aussi Shabbat, puis à un moment, il y a au-dessus du temps.
Alors, vous dites donc, sur le point de son disant, alors si on fait une bracha en Israël, elle est 10 sur 10, d'accord?
10 sur 10, ouais.
Ouais. Non, moi je me dis, bon, je suis à Paris, je fais la bracha la même qu'en Israël,
ouais.
D'accord? Je peux me dire, ok, je ne suis pas à 10 sur 10, mais je suis au moins à 9 sur 10.
Écoute, je ne sais pas. Moi, ce que tu m'as dit avant, je t'ai répondu 1 sur 10. Mais c'est dur pour moi de quantifier, c'est marqué nulle part combien ça vaut. C'est marqué nulle part. 1, 5, 1 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, je ne sais pas. Mais je te dis maintenant quelques petites paroles de Chazal. C'est marqué, celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il fait Avodah Zarah. Celui, il y avait une histoire, je vous ai raconté ça 40 000 fois, je vous le refais encore un peu. Écoute, je te réponds.
C'est une question.
Je te réponds, c'est une très bonne question. Tant que les Gdolés adorent ils ont une mission à faire à l'étranger, ils y restent, et ils ont raison d'y rester. Moi, j'envoyais des gens à la Shiva aller travailler en France. Très connu aujourd'hui, fait plein de kirouves en France, d'accord? Je l'ai pris, tu prends, tu dégages, tu vas en France. Alors que moi, tu m'aimerais de passer deux jours en France, pour moi, c'est une souffrance terrible de comment quitter ce pays qui est le paradis et aller dans le domaine du Sitra Achra, dans le domaine de la Touma. Et j'envoyais des gens là-bas, parce que des fois, il y a nécessité. Alors quand un rave, maintenant, il y a une communauté, il doit s'occuper d'eux, bah, qu'il reste là-bas. Un beau jour, on rentre à la maison. Aujourd'hui, on est en phase de retour à la maison. Ça fait depuis, on va dire, les derniers grands rabbins, qui étaient des figures énormes. Bon, le rav Moshe Feinstein, décédé il y a 25 ans, en Amérique. Après, rav Yaakov Kaminetsky, décédé. Depuis, plus rien. T'as un grand rabbin en France, t'as un grand rabbin en Amérique, ça va, mais restons calmes. Je suis désolé, mais vous parlez comme des gosses qui n'ont pas une idée c'est quoi quelqu'un de grand en Torah. Prends Yabbi Omer, regarde ce que le Rav Odia s'est écrit à l'âge de 30 ans, d'accord? Va pleurer dans ton coin, d'accord? Que quand le Rav Odia Yosef, quand le Rav Shmuel, le Rav Raphaël Baruch Toledano, il est venu vieux ici en Israël. Il est venu ici en Israël. Rav Ben Sohan Abachou, le Rav Odia Yosef l'ont dit, viens, on va lui dire bonjour. Ils avaient, je crois, 22 ans les deux, quelque chose comme ça, 22, 23 ans. Ils viennent le voir. Il se présente, à Ben Saba Shaoul, ouais, Obadi Yosef. Quel Obadi Yosef? Celui qui a écrit Yabbi Omer? Oui. Allez, fiche le camp, tu me racontes des histoires de menteur. Par d'ici. Comment un jeune comme toi peut avoir écrit Yabbi Omer? Rien que le nombre de livres qui sont cités là-bas. Il avait 22 ans. Le nombre de livres qui sont cités là-bas. La Hamkout, la grandeur. Ramsouman Zaman Auerbach, il a écrit pour Yabbi Omer numéro 2. Ramsouman Auerbach, c'est le grand de la génération, il a dit, je n'ai pas vu un livre pareil de tout l'achronisme de notre temps. Je n'ai pas vu. De nos temps, des derniers temps, d'accord, de nos temps. Ni en Bekiyut, ni en Iyun. De quoi on parle? Tu compares maintenant. C'est insultant pour Hamovad avec tout le cavote. Je ne veux pas descendre le cavote d'un millimètre. Pas un millimètre. Tout le cavote qui leur doit vraiment. Mais c'est insultant de dire qu'ils arrivent à la cheville du Rav Yosef. C'est insultant pour Rav Yosef. D'accord? Vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Excuse-moi, tu es complètement hors de la Sougia. D'accord? Tu n'es pas la même Maseret. On n'est pas dans la même cour. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, les grands, ils sont tous ici.
Le monde de la. Si ils viennent en Israël, ils pourraient devenir aussi grands qu'eux?
S'ils se mettent à bosser, oui. Ils viendront en Israël, ils ne seront pas grand-chose. Parce que par rapport à la moyenne israélienne, ils sont très très moyens. Avec tout le cavode qu'on leur doit, hein. Tout le cavode.
C'est sûr, si on compare à Kanievski et Rav Odia, ça c'est sûr. Mais comparé aux trois quarts des rabbins ici, il y a des rabbins en France.
Ouais, tu les connais si bien, toi. Tellement un grand Ram qui sait maintenant évaluer la valeur de chacun. Tu te plantes, mon cher ami, d'accord? Le Rav Ram Kanievski posait une question, il y a 2 ans. Le contrat s'est apparu, il y a 2 ans. Il posait, est-ce qu'on doit dire aux juifs de France de monter en Israël? Il a dit, il faut juger au cas par cas. Quelqu'un qui vient ici, il n'a pas de parlance, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme là, beaucoup viennent, ils n'ont pas de parnassa, et ils repartent bredou après 3-4 ans, dégoûtés et amers. Après, le contrat se demande, et les étudiants de Torah qui viennent. Parce que l'ambiance qu'il y a en terre d'Israël, et l'étude de Torah en Israël, elle a tellement de grande valeur par rapport à l'étranger, que même sans aucune source de parnassa, qui viennent. Et Dieu aidera. Note de l'autre, parenthèse de contraste, la réponse du Rav est très forte, dans la mesure où ils disent, venez. L'intendant suivra. C'est Reb Chaim, c'est pas n'importe quoi. Il dit, vas-y, jette-toi à l'eau. Parce que la Torah d'Israël, tellement elle a de valeur. C'est évident, ça n'a rien à voir. Messieurs, vous avez entendu parler un peu de la Torah qu'il y avait avant la Shoah en Europe, le Rav Chaim, les Yeshivas de Mir, il y avait des Yeshivot de Kelem. Combien d'élèves de Yeshivot il y avait en Europe avant la Shoah? 15 000. 100 000. 400 000.
1 million.
Ponovitch y avait. Mir. Tout est chez votre assédiote. Kelem. Tout est chez votre de Novardok. Tout, ta. Combien? 1000 élèves. C'est même pas Ramot. Ça, c'est l'Europe. Et on en parle tu compares avec ce qui se passe aujourd'hui ici, il n'y a pas photo, il n'y a rien à voir.
Rachid avait connu Israël.
Alors, pendant un certain temps, Dieu nous a chassés de la terre d'Israël, avec un coup de pied aux fesses, dégagés. On est partis, on a souffert, et Dieu nous a poursuivis pour tous nos nombreux péchés qu'on a fait durant qu'on était en terre d'Israël. Mais un beau jour, Dieu a pitié de nous. Il a dit, je vous fais maintenant la dernière facture, et vous venez. La Shoah, boum, maintenant elle est rentrée. Maintenant que Dieu t'a dit, rentrez. Tu comprends qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant la Shoah? Il a pris les Juifs d'Europe, il a fait comme ça, dégagé. Dans les fours, et les autres, vous partez. C'est ce qu'il a fait Dieu. Attends, maintenant, la preuve, c'est où est le monde de la Torah? Le monde de la Torah, il est parti en galoute. Rav qui était élève de Rabbi, il dit, je quitte Israël. Ari al-Babel, il va en Babylonie. Après, vers l'an 600-700, la Torah est partie de Babylonie, il y a un bateau qui est parti, et les Chachamim, ils ont fait naufrage, ils sont arrivés en Afrique du Nord. Après, ils sont allés en Provence. Après, ils étaient en Ashkenaz. Après, ils étaient en Espagne. Après, ils étaient en Pologne. Après, ils étaient un peu partout dans le monde, en Irak, en Amérique, en Angleterre. La France aussi un peu, il y a eu. Et, back home, on rentre à la maison, c'est fini. La preuve comme quoi maintenant, c'est pas de la blague. C'est pas un mouvement sioniste, que c'est un flop, qu'il y a Théodore Herzl et Ben Gurion, que c'était un ballon vide. C'est que le monde de la Torah, il est là. Et ça, c'est vraiment la Torah. Et plus que cela maintenant, les chiffres, il y a 2-3 semaines ici en Israël, 62% d'Israéliens se considèrent comme croyants. Alors qu'il y a 50 ans...
En France, on est 90%, si vous voulez. Tous ceux qui embrassent les deux œuvres, ils se croient croyants.
Ouais.
C'est très subjectif.
Ceux que tu sais qui sont encore juifs. Non, mais moi, je sais ce qui se passait il y a 50 ans ici en Israël. Après, tu te poses la question, il n'y avait pas 2%. Hein? C'est vrai. Non, mais au niveau de la terre d'Israël, le fait qu'aujourd'hui, en Israël, qui était un État qui était laïque, anti-religieux, et que tout la radio, sans cesse, on nous tombe dessus. C'est quand on dit en croyant, c'est pas en croyant en un dieu machin, on parle en Torah, je sais pas exactement le terme qu'on a utilisé, mais 62 qui sont croyants, qui croient en tout cas une divinité juive, d'accord? On parle de cela, c'est inespéré, c'est de la science-fiction. Comprenez que même il y a 20 ans, on n'y croyait pas un truc pareil. C'est extraordinaire ce qui se passe, c'est extraordinaire. Ça se passe ici, l'étranger, c'est mort maintenant. Le Rambam, prenons l'Halakha, vous connaissez l'Halakha, on parle de l'Halakha, l'Halakha dit... interdit de quitter la terre d'Israël. C'est pour trois raisons. Pour se marier, pour suivre son rave parce qu'il peut pas tuer avec quelqu'un d'autre, pour sauver les juifs des goïms. Et s'il y a la famine en Israël. C'est-à-dire que les shaharim, les prix ont doublé. On peut plus s'en sortir. Point de vue financier, t'arrives pas. Bye bye. Et il dit, c'est pas une mesure de piété. Parce que Elimelech, qui était le grand de la génération, il a quitté la terre d'Israël parce qu'il y avait la famine. La famine! Et ses deux enfants, Machlon et Chilion, et Dieu les a tués parce qu'ils ont quitté la terre d'Israël. Rambam. Dieu l'a dit à Yaakov, quitte la terre d'Israël.
Mais comment c'est que ses enfants sont morts parce qu'il a quitté la terre d'Israël?
Rambam. D'où il sait, c'est la Gemara qui dit. Le Rambam a pris d'autres effets. Il a dit ça. Les Midrashim disent plusieurs raisons. Rambam a dit cette raison-là. Tellement c'est rajout la terre d'Israël. C'est des Midrashim, il n'a pas rien inventé, Schlop il a sorti maintenant ce qu'il lui voulait.
Ah, alors je pars en France pour marier, par obligation. Donc la valeur de mes parents. Je suis en France.
Quand en France t'as pas le choix, tu continues, ça d'ailleurs. Mais sache que la France en soi, c'est pas génial. Il faut prendre la femme et venir. Kibbout d'Avem, c'est permis. Pour aller et revenir. Rashbat, tu vas, tu fais ton kibbout d'Avem, tu reviens. Quelqu'un m'a écrit maintenant, mais voilà, sa grand-mère est décédée, son père il est Abel, il peut quitter Israël pour Abel, il est en deuil, loi de Chem, est-ce qu'il peut quitter Israël pour aller? Je dis oui, tu vas et tu reviens, ça va. Mais aller rester là-bas, la Gemara, c'est une histoire affreuse, c'est une Gemara Ktubot 111 au milieu de la page. Ah, il y a, vous voulez que je vous lise dedans? Ktubot, bon, il y a un rave qui va voir je ne sais plus quel rave, Rabbi Zera, je ne sais plus quoi, il lui dit, un homme qui va voir un rave, il dit voilà, mon frère est décédé à l'étranger. Il n'a pas laissé d'enfant. Je me sens maintenant de hiboum, d'aller maintenant voir cette femme, me marier avec elle pour amener des enfants. Est-ce que je dois quitter la terre d'Israël pour aller me marier avec elle? Le rabbi lui répond, ton frère s'est marié avec une Goya. Dieu l'a tué, béni soit Dieu qui l'ait tué. Toi tu demandes d'aller faire comme lui, ne me fais pas. C'est une Gemara Ktubot 111a. Attends, laisse-moi terminer. Maharsha. C'est qu'il a n'importe qui marcha. Il dit comme ça. Il dit, tu peux se marier avec une juive. Mais il habitait à l'étranger. Donc c'est comme s'il marquait une Goya. Toi, tu veux aller maintenant avec rejoindre la Goya là-bas. Béni soit Dieu qui a tué ton frère qui habite l'étranger. Verstehst? Tu entends?
Attendez, Rav, elle est juive. Pas juive, hein.
Elle est juive. Tu sais quoi? Prends le chasse. Enlève le marche là du chasse et remets-le à sa place.
Le marché est en rousse.
Monsieur veut habiter en France. Monsieur veut dire que tout va très bien. Il commence à changer la Torah. Ça va. La Torah, elle est la Torah, d'accord? C'est pas marqué sioniste ici, d'accord? Mais vous comprenez pas qu'on pouvait pas habiter ici, il n'y avait rien, c'est interdit. On a été chassés de la terre, chassés. Tu peux pas, tu t'es tué, il n'y avait rien. Combien de gens sont venus ici?
Il y en a bien qui est venu et qui a construit une fois.
Qui?
Je sais pas, il a commencé.
Le gars de Vilna, il a commencé. Attends, il est venu, il a même pas réussi, il a envoyé ses élèves. Et qu'est-ce qu'ils ont souffert? Ils ont eu le typhus, et les machins, et les trucs, et ils sont battus. C'est pas facile. Ils n'ont pas réussi, c'était impossible à venir. Il y avait les croisés, ils te tuaient, t'avais les mamelucs, t'avais les ottomans. Quelle souffrance il y avait ici? Quelle souffrance! C'est très très dur, c'est pas possible. Il y avait la famille, il n'y avait rien. Le Ramban, il est expulsé d'Espagne, il est venu ici. Il était de la vieux, il dit, je vais mourir ici. Il arrive ici à Yerushalayim, il veut faire Kippour, il y avait trois juifs à Yerushalayim. Trois juifs. On pouvait amener ici, il n'y avait rien, c'était mort. Des maladies, des trucs, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait? Faut pas changer la Torah, j'attends. Mais... Quoi? Comment ça vous énerve? Non, désolé, mon cher ami, la Torah reste la Torah. Cette terre, elle est sainte. On est sorti d'Égypte pour rentrer sur cette terre. Parachlach. Qu'est-ce qu'on va voir, Chlach, cette semaine? Attends, t'as eu la paracha cette semaine? Qu'est-ce qu'ils font, Bnei Israël? Ils font le veau d'or. Allez, Moshe, je t'en prie, Dieu, allez, là, allez, c'est bon. Je pardonne. Après, on veut rentrer en terre d'Égypte, on veut manger la bonne viande. Allez, il envoie la viande, tac, on excuse, on continue. Après, non, on veut de l'ail, et des avatérim, et des choumim, et tout, on était bien là-bas. Allez, on vous envoie les poissons. Allez, ils se mettent de nouveau, Dieu est fâché, Dieu, il pleure. Après, Korach, on a marre, Avram, Moshe, Aaron, vous êtes bidon, tout ça. Allez, Dieu, à la fin, ils disent, on veut envoyer des gens voir cette terre. Ils reviennent, pas génial la terre. Dieu dit, c'est comme ça, ce coup-là, vous ne rentrez pas. Le veau d'or, tu as pardonné. Tous les trucs, tu as pardonné. Terre d'Israël, Dieu dit, non. Tout le but, je vous amène ici, c'est ça. Parce que c'est sur cette terre qu'on peut devenir ce que nous sommes, c'est le but. Sur cette terre, on peut être âme Israël. On est en exil, on est puni. Un type qui est puni pour 2000 ans, il faut lui dire, maintenant ça va, je t'excuse, rentre. Non, je suis bien là-bas, nananer, j'y suis, j'y reste. Pauvre type. Non, il mérite des gifles.
On est toujours en exil, voilà.
On est en phase de fin d'exil, mon cher ami. Tu veux que ça fasse les contes de Daniel? On y est. Attends, on n'a jamais eu ça depuis 2000 ans. On n'est pas en exil. Excuse-moi, on n'est pas en exil. On est en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, exil? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore les maîtres sur cette terre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un gouvernement anti-juif, Erevrav. Mais cette terre, elle est sainte. Qui que tu mets dessus, elle est sainte. Tu fais des mitzvahs de Orla, de Trouma, de Maaser, de Maaser Rishon, de Maaser Sheni, de Kilaim, tous ces machins-là.
Alors, pourquoi ce matin, j'entends, tiens, à Israël, ta bracha, quoi qu'il est, moi je te donne la garantie que tu auras sûr mieux qu'en France. Bah, je te donne ma garantie. Ok,
je te donne la garantie que le contraire. Non, mais même Yerushalayim, tu prends une baraque là-haut en face du Kotel, moi je te garantis que tu auras moins de bracha qu'en France.
Comment?
Je te garantis que tu auras moins de bracha qu'en France. Moi je te garantis le contraire, parce que cette terre-là, elle, c'est la terre sainte. Ça, c'est une terre de service de Dieu. C'est dur. La France, c'est le coton. C'est Olam Hazeh. Tu dis, Dieu, je veux pas de toi. Bon, alors qu'est-ce que tu auras? Tu fais des mitzvot, tiens, prends de l'argent. Non, ça veut dire que Dieu, maintenant, il te montre, ici, c'est dur. Là-bas, c'est facile. Or, nous, on sait que quand c'est facile, il faut voir pourquoi c'est facile. Pourquoi en France, dans le monde des goïms, c'est facile? Et ici, c'est dur. Parce qu'ici, c'est la terre sainte. La terre sainte veut dire qu'on ne peut pas arriver à un niveau, il y a gatamassa, tu ne peux pas arriver à une chose de valeur sans effort. La terre d'Israël s'achète avec souffrance. La Torah s'achète avec souffrance, Olam Haba s'achète avec souffrance. Ça, c'est les choses qui ont de la valeur.
Comme
Goy,
c'est
un habitant étranger. Comme Goy, c'est marqué, t'es considéré comme Obed Avodah Zara. C'est marqué. Rashi te le dit, la Gemara te le dit. C'est vrai que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui fiche le camp qui est là-bas, on ne peut pas le voir. Quelqu'un qui est sorti du Kal Israël, qui est Mechalel Shabbat, ou avec une Goya, qui fasse à l'étranger, pas ici.
Ils sont allés raconter sur le frère. Le frère qui doit faire le Iboud. Sa femme a été juive, elle a été considérée comme Goya parce qu'ils se sont mariés en France.
Ouais.
Parce que si on va se marier en France.
Alors c'est Gouzma, c'est vrai que c'est exagéré.
C'est une histoire exagérée.
C'est une expression du rabbin. Mais comprends que le rabbin, il parle comme ça. Il te dit, béni soit Dieu qui l'a flingué. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui est là-bas, il est comme s'il avait l'Ovada Zara. Comme si. Comme si. Attends, c'est un juif, on le fait pour l'aider? Oui, on envoie même des gens là-bas pour les aider. On envoie des bons juifs là-bas pour les aider. Oui, moi-même, je quitte ma maison, je quitte ma terre d'Israël, que j'aime tant, pour aller là-bas en France, qu'est-ce que dans une tombe, d'accord, je me trouve là-bas, pour parler avec des juifs. Et je prends un bras, c'est aussi des juifs, il faut bien les ramener. Oui. Et quelqu'un qui a le choix, la question ne se pose pas. Je veux dire mieux que ça. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? C'est avec des enfants que ça va venir. Ça ne marche pas. Ceux qui mangent avec des enfants, c'est très dur pour eux. Ils ne s'habituent pas, les Israéliens sont difficiles, c'est très dur. Alors c'est la retraite. C'est où maintenant? Et combien qui descendent avec leurs enfants? Et comment les enfants partent en cacahuète? Renseigne-toi! Comment les enfants partent en cacahuète? En cacahuète! Yaakov, raconte-nous. Ça fait combien de temps que tu es en Israël, toi? 12 ans. Et comment c'était de monter en Israël? Facile? Difficile? Français, famille française. Comment ils s'arrangent? Très difficile! Regarde les parents d'elle. Combien à Beit Dagan? Rien qu'au Beit Dagan. C'est super quartier orthodoxe. Bien. Les gosses, comment ils partent en cacahuète? Beaucoup! Parce que c'est pas facile. Mieux vaut monter maintenant quand t'es jeune, et c'est facile, t'as qu'à rester. Avec une femme, t'es deux. Non, je dis que c'est beaucoup plus... C'est très dur. Je veux dire que c'est dur de monter en Israël. Il y a deux âges où c'est facile de monter en Israël. À la retraite, quand t'as plus rien à faire. Et quand tu es à l'âge de 20 ans. 18, 22 ans. Ça, c'est facile. T'es jeune, t'es malléable, c'est bon, t'as pas encore tout fixé. En gros, ouais. Faut pas se caser avant. Voilà. Tranquille. Si tu as le choix entre ça et ça, certainement. 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 Aller faire des études en France. Hein?
C'est plus dangereux ici.
Tu me dis maintenant, faire des études à Strasbourg avec des goïms. Ou ici le Nahal Haredi, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a aucune discussion, rien. Même pas avec quoi. Mais toi, c'est ce qu'il me dit maintenant. Il me dit, tu vas faire quoi comme étude? Religieuse? Tu vas à la fac maintenant, ou bien tu vas à l'armée. Va, bah, à l'armée. Donc, tu me dis, c'est pas ce que tu me dis. Fais l'armée, bon, on a plutôt que de faire la fac. C'est quoi la fac? Ça veut dire, Ezrat Hashem, tes petits-enfants sont juifs. Ça veut dire ça, c'est tout. Ezrat Hashem. J'étais. Ce jeune homme, Yitzhak, il est témoin. J'étais il y a 3 semaines à Strasbourg, qui est la communauté la plus froume de France. Froum, la plus religieuse de France. Je peux faire la même chose à Sarcelles et à Créteil, où tu veux, d'accord? Il y avait 500 personnes. J'aurais dit, qui dans la salle, dans son entourage proche, parents, oncles, cousins, neveux, frères, sœurs, enfants. Tout le monde, centre juif. Il n'y a pas de concubinage avec une Goya ou un Goy. Qui lève la main? Celui qui est tous entre juifs. Il n'y a pas un qui a levé la main. Pas un qui a levé la main. Pas ici. Non, désolé. Jamais de la vie. À Tel Aviv. Va, je veux voir. Tu sais qui? Leur cousin qui est en France. Oui. Mais en Israël? Trouvez la... Ah, attendez, vous rigolez? Non, mais vous rigolez. Quelle est la chance que j'ai ici de tomber sur une Israélienne en Israël que sur une Goya? Ça va? Bah voilà, mais c'est pas rien, c'est une réalité.
Hein? Plus de chances de tomber sur des chilonymes qui sont pas du tout avec des juifs.
Mais c'est des juifs au moins. Le Goy, il peut faire tchouva. Mais après la Goya. Elle va faire tchouva la Goya. Le gosse, il est Goy. Tu vas faire après lui. Goy. Terminé. Voilà. Mais tu rêves, mon cher ami. Mais il va pas se convertir, il est Goy. Pourquoi il se convertirait? Nathan rentre en France. Les premiers mois, il fait sa prière le matin, il se lève un peu plus tard que Yisrael Joseph, mais il arrive encore à la prière plus ou moins. Après, il fait à la maison. D'accord? Il va à la fac. Il parle pas aux bonnes femmes, il parle pas aux bonnes femmes. Et puis un beau jour, il parle à une bonne femme. Et elle est mignonne. Et une fois, et deux fois, et 10 fois, et 100 fois, et 1000 fois. Et il fait quoi, Nathan, au bout de quelques mois? Eh ben, il tombe dans le panneau, parce que c'est un être humain, c'est pas Superman. D'accord? Faut pas rêver. Attends. Attends, au début. Mais c'est dans toutes les familles, 80% d'assimilation, t'entends, 80% d'assimilation.
Mais les facs ici, elles sont pires.
Arad Sofim. Regarde, mon cher ami, il n'y a aucun endroit où c'est imperméable, où c'est clean, c'est certain. Mais il y a des risques à prendre. Quand tu vas acheter une maison maintenant, il y a un terrain qui est très mouvant, un terrain qui est moins mouvant. C'est oula, tu fais quoi? Tu prends le plus mouvant ou le moins mouvant? Tu prends le moins mouvant. Alors c'est clair, il faut être absurde, il faut être tordu, vraiment, Kavana, pour dire, il y a plus de chances que je marie avec une juive en France qu'en Israël. Ça va, c'est pas normal, d'accord? Maintenant, tu vois, preuve à l'appui, je te montre maintenant sur un échantillonnage de 500 personnes de la commune la plus froume de France, zéro. T'as pas un qui a réussi à passer l'épreuve sans aucune goya. Regarde ici! Regarde, demande aux gens qui sont en Israël, avec tous les problèmes, le type il est anti-religieux, d'accord? C'est un Shalom Arshav avec les pancartes. Mais ils sont entre juifs, il y a une chance de revenir, il y a une chance. Là-bas, c'est mort. Rien que pour ça, ça vaut la peine de parler en France. Parce que c'est clair que dans les petits-enfants, il y a de la Goya. C'est clair, faut pas rêver. Si c'est pas ton fils, c'est ton petit-fils. Faut pas rêver. Je te le signe sur un papier. Baruch Adonai, Amen.